Mazer vint le réveiller au petit matin. La pendule indiquait 03:40 et Anders se sentit groggy en arpentant le couloir derrière son professeur. « Se coucher tôt, se lever tôt, » chantonnait ce dernier, « rend un homme stupide et aveugle. » Il avait rêvé que les Doryfor le disséquaient. Sauf qu'au lieu de découper son corps, il taillait en pièces ses souvenirs, les exposait comme des hologrammes et tentait de leur donner un sens. C'était un rêve très étrange, dont Ender avait bien du mal à se débarrasser, même quand il arpentait les tunnels menant à la salle du simulateur. Les Doryfor le tourmentaient dans son sommeil, et Mazer prenait le relais dès qu'il ouvrait les yeux. L'un dans l'autre, ils n'avaient aucun repos. Mazer avait apparemment été sérieux en lui parlant de son intention de le briser, et le forcer à jouer fatigué, à moitié endormi, était exactement le genre de tour minable et bon marché auquel Ender aurait dû s'attendre. Eh bien, ça ne marcherait pas en ce jour. Une fois devant le simulateur, il découvrit que ses chefs d'escadrille étaient déjà connectés, à l'affût de ses ordres. L'ennemi n'ayant pas encore fait son apparition, il les divisa en deux armées et les lança dans une bataille factice, commandant les deux camps afin de pouvoir contrôler le test que chacun de ses chefs allait passer. Ils commencèrent lentement, pour bientôt retrouver toute leur vigilance. Puis le champ du simulateur s'effaça, les vaisseaux disparurent et tout se modifia d'un seul coup. Du côté de la projection le plus proche d'eux, ils pouvaient à présent voir les formes holographiques de trois navires spatiaux appartenant à la flotte humaine, chacun d'entre eux sans doute équipé de 12 chasseurs. L'ennemi, manifestement conscient d'une présence étrangère, avait formé une sphère au centre de laquelle se trouvait un unique vaisseau. Ender n'était pas dupe. Il ne s'agissait pas du bâtiment royal. Les Doryfor surpassaient en nombre ces chasseurs dans une proportion de 2 pour 1, mais ils étaient regroupés beaucoup trop près les uns des autres. Le docteur Mecha allait pouvoir faire beaucoup plus de dégâts que ce à quoi s'attendait leur opposant. Après avoir sélectionné un vaisseau, le faisant clignoter dans le champ du simulateur, Ender commença à parler dans le micro. « Allez, celui-là est le tien. Donne à Petra et à Vlad les chasseurs que tu veux. » Il affecta les deux autres, y compris leurs chasseurs, à l'exception d'un de chaque qu'il confia à Bin. « Passe le long du mur pour les contourner par le bas, Bin. Sauf s'ils commencent à te poursuivre. Puis reviens aussitôt te mettre à l'abri. Ou alors positionne-toi là où je pourrais rapidement faire appel à toi. Allez, lance un assaut resserré sur un point de leur sphère. Ne tire pas avant que je te le dise. C'est juste une manœuvre. »
Plutôt facile, Ender, fit Allais.
Ça te dispense d'être prudent? J'aimerais la réaliser sans perdre un seul vaisseau.
Ender regroupa ses réserves en deux forces censées couvrir Allais de loin.
Bin avait déjà disparu de son écran, mais le jeune Wiggin passait de temps à autre sur son point de vue pour garder trace de sa position. C'était à Allais, cependant, que revenait la part délicate. Il avait adopté une formation en balles de fusil et mettait à l'épreuve la sphère ennemie. Les vaisseaux des Doryfor se retiraient chaque fois qu'ils s'en approchaient, comme pour l'attirer vers celui qui se trouvait au centre. Allais esquivait alors par le côté. Ses adversaires le suivaient, battant en retraite à chacune de ses tentatives de jonction, puis rétablissant leur formation en sphère après son passage. Feinte, repli, effleurement de la sphère en un autre point, nouveau repli, nouvelle feinte. Puis Ender dit « Continue à l'intérieur, allez !» Sa balle la pénétra alors qu'il disait à Ender « Tu sais qu'ils vont me laisser entrer simplement pour m'encercler et me dévorer vivant? Contente-toi d'ignorer le vaisseau du milieu.
Comme tu veux, patron. »
La sphère commença à se contracter, comme attendu. Ender fit avancer ses réserves. Les vaisseaux ennemis se regroupèrent au point de la formation le plus proche.
« Attaquez-les là-bas, là où ils sont le plus concentrés. »«
Ça va à l'encontre de 4000 ans d'histoire militaire, » fit remarquer Allais en portant en avant ses chasseurs. « Nous sommes censés attaquer là où nous les surpassons en nombre.
Ils ignorent manifestement ce que nos armes peuvent faire dans cette simulation. Ça ne fonctionnera qu'une seule fois, mais faisons en sorte que ce soit spectaculaire. Feu à volonté !»
Allais s'exécuta. La simulation réagit à merveille. Tout d'abord un, puis deux, puis une douzaine, puis presque tous les vaisseaux ennemis
explosèrent alors dans une lumière aveuglante à mesure que le champ bondissait d'un bâtiment au suivant.
« Écartez-vous !» fit Ender.
Les vaisseaux situés de l'autre côté de la formation en sphère ne furent pas affectés par la réaction en chaîne, mais les traquer pour les détruire ne présentaient guère de difficultés. Bean s'occupa des traînards qui essayaient de fuir sa portion d'espace. La bataille était gagnée, plus facilement que la plupart de leurs exercices récents.
Mazer haussa les épaules quand Ender lui en fit part. « C'était une simulation d'invasion. Il fallait que ce soit une bataille dans laquelle ils ignoraient ce que nous pouvions faire. C'est maintenant que le vrai travail commence. Essaie de ne pas trop te monter la tête avec cette victoire. Les véritables défis ne sauraient tarder. »
Ender s'entraînait 10 heures par jour avec ses chefs d'escadrille, mais pas tous en même temps. Il leur accordait quelques heures de repos dans l'après-midi. Les simulations de bataille supervisées par Mazer avaient lieu tous les 2 ou 3 jours, et, tout comme il l'avait promis, la suivante était toujours plus dure. L'ennemi abandonna rapidement ses tentatives d'encerclement d'Ender, cessa de regrouper ses forces pour éviter de s'exposer à une réaction en chaîne. Il y avait chaque fois quelque chose de nouveau, de plus exigeant. Il ne disposait parfois que d'un vaisseau et de 8 chasseurs. À une occasion, son adversaire s'échappa par une ceinture d'astéroïdes. Il larguait de temps à autre des pièges stationnaires, de grosses installations qui explosaient si Ender laissait ses escadrilles s'en approcher trop près, au risque de les endommager ou de les détruire.
« Tu ne peux pas absorber les pertes !» lui hurla Mazer après une bataille. « Quand tu te retrouveras dans une vraie bataille, tu n'auras pas le luxe de disposer d'une réserve inépuisable de chasseurs générés par ordinateur. Tu auras ce que tu auras à porter et rien de plus. Il va falloir t'habituer à combattre sans pertes inutiles. »
« Ce n'en était pas une ?» protesta Ender. « Je ne peux pas remporter de bataille si la peur panique de perdre un vaisseau m'empêche de prendre le moindre risque. »
Mazer sourit. « Excellent, Ender. Tu commences à apprendre. » Mais dans une vraie bataille, il y aurait des officiers supérieurs et, pire encore, des civils pour te hurler dessus ce genre de choses. Bon, si l'ennemi avait été un tant soit peu intelligent, il vous aurait surpris ici. L'escadrille de Tom n'aurait pas fait long feu.
Tous deux examinèrent ensemble la bataille. Lors du prochain entraînement, Ender ferait part à ses chefs d'escadrille de ce que Mazer lui aurait montré, ce qui leur permettrait d'apprendre à y faire face à l'avenir. Ils pensaient pourtant être prêts, après avoir travaillé harmonieusement en équipe. Mais le fait de relever de concert de véritables défis ne fit qu'accroître la confiance qu'ils s'accordaient mutuellement, faisant de chaque bataille une expérience exaltante. Ils révélèrent à Ender que ceux qui ne jouaient pas venaient dans la salle de simulateur pour regarder. Le jeune Wiggins s'imaginait entouré de ses amis, en train d'applaudir, de rire ou d'avoir le souffle coupé d'appréhension. Il pensait parfois que ça ne ferait que le distraire, mais il se surprenait souvent à le souhaiter de tout son cœur. Jamais il ne s'était senti aussi seul, même lorsqu'il passait toutes ses journées couché sur le radeau, au milieu du lac. Mazer Rackham était son compagnon, son professeur, mais ce n'était pas son ami. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Mazer lui avait dit qu'il ne pourrait compter sur aucune pitié de sa part et que ses malheurs personnels n'intéressaient personne. La plupart du temps, au demeurant, il ne l'intéressait même pas lui-même. Il demeurait concentré sur le jeu, s'efforçait d'apprendre de chaque bataille, et pas seulement des leçons qu'il pouvait tirer d'un affrontement particulier, mais en essayant aussi d'imaginer ce que les Doryphores auraient pu faire s'ils s'étaient montrés plus intelligents, et la façon dont lui-même réagirait à l'avenir dans pareil cas. Éveillé comme endormi, il vivait au milieu des batailles passées et des batailles futures, et surmenait ses chefs d'escadrille au point de parfois susciter un esprit de rébellion.
« Tu es trop gentil avec nous, » lui dit un jour Allais. « Pourquoi ne nous reproches-tu pas de ne pas être brillants à chaque instant de chaque entraînement? Si tu continues de nous dorloter ainsi, on va finir par croire que tu nous apprécies. »
Des rires s'élevèrent dans les micros. Bien sûr, l'ironie n'échappa pas à Ender, qui se contenta d'y répondre par un long silence. Lorsqu'il prit finalement la parole, il feignit même de ne pas en tenir compte. «
Encore une fois, »
fit-il, et sans auto-apitoiement pour changer.
Dont acte, et avec succès.
Mais à mesure que grandissait leur confiance dans ses qualités de commandant, leur amitié à son égard, qui datait de leur séjour à l'école de guerre, disparaissait peu à peu. C'était entre eux que des liens se créaient, entre eux qu'ils échangeaient des confidences. Ender était leur professeur et commandant, aussi distant d'eux que Mazer l'était de lui, et aussi exigeant. Ils se battaient d'autant mieux, et rien ne venait distraire Ender de son travail. Du moins pas tant qu'il était éveillé. Lorsqu'il sombrait dans le sommeil chaque soir, des images du simulateur s'invitaient immanquablement dans son esprit. Pendant la nuit, par contre, il songeait à d'autres choses. Souvent, il se rappelait le cadavre du géant, sa décomposition régulière. Il ne s'en souvenait pas, cependant, comme le personnage pixelisé sur l'écran de son bureau. Il était bel et bien réel. Une faible odeur de mort persistait à planer autour de lui. Le petit village qui s'était développé entre ses côtes accueillait à présent des doryphores qui lui faisaient signe avec gravité, tels des gladiateurs saluant César avant de mourir pour sa distraction. Il ne les haïssait pas dans son rêve. Et quand bien même il savait qu'il lui avait caché leur reine, il n'essayait pas pour autant de la trouver. Il se hâtait toujours de quitter le corps du géant, et il y avait toujours les enfants à l'air de jeu lorsqu'il y parvenait, Lupin et Moqueur, avec des visages qu'il connaissait. Parfois Peter, et parfois Bonzo, parfois Stilson et Bernard. Presque aussi souvent, néanmoins, ces créatures sauvages prenaient les traits d'Allée, de Chêne, de Dink et de Petra. L'une d'elles devenait parfois Valentine, et dans son rêve, il la maintenait sous l'eau, elle aussi, en attendant qu'elle se noie. Elle se débattait entre ses mains, luttait pour regagner la surface, mais finissait par s'immobiliser. Il la tirait alors du lac et la hissait sur le radeau où elle gisait, le visage déformé par un rictus de mort. Il hurlait, pleurait sur elle, sanglotant sans cesse que ce n'était qu'un jeu, un jeu, qu'il ne faisait que jouer. Mazer Hakam le secoua pour le réveiller. « Tu criais dans ton sommeil. »«
Désolé, »
fit Ender. « Ce n'est pas grave. Il est temps de livrer une nouvelle bataille. » Le rythme s'accélérait régulièrement. Il y avait généralement deux batailles par jour à présent, et Ender réduisit les séances d'entraînement au minimum. Il préférait utiliser les périodes de repos à étudier les enregistrements des parties précédentes pour tenter de repérer ses propres faiblesses, de deviner ce qui allait arriver ensuite. Il était parfois parfaitement préparé aux innovations de l'ennemi, parfois pas.
« Je crois que vous trichez, » dit-il un jour à Mazer.
« Ah ? » ?»«
Vous pouvez observer mes séances d'entraînement. Vous pouvez voir sur quoi je travaille. Vous avez l'air de vous attendre à tout ce que je fais. »
« Presque tout ce que tu vois se résume à des simulations informatiques, » lui expliqua Mazer. « L'ordinateur est programmé pour ne répondre à tes innovations que lorsque tu les as utilisées une fois au combat. »
« Alors c'est l'ordinateur qui triche. »
Tu manques de sommeil, Ender. Mais il n'arrivait pas à dormir. Il restait chaque nuit éveillé de plus en plus longtemps, et son sommeil se faisait moins réparateur. Il n'arrêtait pas de se réveiller, sans trop savoir si c'était pour réfléchir au jeu ou pour s'échapper de ses rêves. C'était comme si quelqu'un l'y harcelait, le forçait à errer parmi ses pires souvenirs, à les revivre comme s'ils avaient été réels. Sa vie nocturne devenait progressivement tellement tangible que ses jours finissaient par ressembler à des songes. Il commença à redouter de ne plus avoir les idées claires pour jouer, d'être trop fatigué. Chaque fois qu'une nouvelle partie débutait, son intensité avait au fait de le réveiller. Mais si ses aptitudes mentales se mettaient à lui échapper, il se demandait s'il s'en rendrait vraiment compte. Et elle semblait bel et bien peu à peu s'évanouir. Il ne livrait plus la moindre bataille sans perdre au moins quelques chasseurs. À plusieurs reprises, l'ennemi parvint à le forcer par la ruse à s'exposer plus que de nécessaire, ou bien à l'épuiser dans une guerre d'usure au point que sa victoire finissait par dépendre autant de la chance que de ses stratégies. Auquel cas, Mazer regardait la partie avec un air de mépris sur le visage.
« Non, mais regarde-moi ça, » disait-il. « Tu n'étais pas obligé de le faire.
et Ender de reprendre l'entraînement avec ses chefs d'escadrille, s'efforçant de leur remonter le moral, mais laissant parfois poindre la déception que lui inspirait leur faiblesse. Le simple fait qu'ils puissent commettre des fautes.
« On fait parfois des erreurs », lui murmura une fois Petra.
C'était un appel à l'aide.
« Et parfois on n'en fait pas »,
lui répondit Ender. Si elle obtenait assistance, ce ne serait pas de sa part. Lui devait enseigner. Qu'elle se fasse donc des amis parmi les autres. Puis eut lieu une bataille qui manqua tourner à la catastrophe. Petra fit trop avancer son unité, l'exposant inutilement, et s'en rendit compte à un moment où Ender ne se trouvait pas à ses côtés. Quelques instants suffirent à lui faire perdre tous ses vaisseaux, à l'exception de deux. Quand Ender l'eut rejointe, il lui ordonna de les déplacer dans une direction donnée. Elle ne réagit pas. Il n'y eut aucun mouvement. Et presque aussitôt, elle perdait ses deux derniers chasseurs. Ender comprit tout de suite qu'il lui en avait demandé trop. En raison de son excellence, il avait réclamé d'elle qu'elle joue beaucoup plus souvent et dans des conditions infiniment plus difficiles que la plupart des autres. Mais il n'avait pas le temps de s'inquiéter pour Petra, de se sentir coupable à cause de ce qu'il lui avait fait subir. Après avoir ordonné à Crazy Tom de commander les deux chasseurs restants, il repartit au combat pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Petra avait occupé une position centrale dans sa stratégie, et celle-ci tombait à présent en morceaux. Ender aurait perdu si l'ennemi ne s'était montré aussi impatient d'exploiter son avantage. Mais Shen parvint à isoler un groupe d'adversaires en formation trop serrée et les descendit d'une unique réaction en chaîne. Crazy Tom envoya par la brèche ses deux chasseurs survivants qui firent des ravages dans les rangs ennemis. Si ces vaisseaux, comme ceux de Shen, finirent par succomber aux tirs adverses, leur action mit Fly Molo en situation de nettoyer définitivement le terrain. Au terme de la bataille, ils pouvaient entendre les sanglots de Petra alors qu'elle essayait de prendre un micro.
« Dites-lui que je suis désolé. J'étais tellement fatigué. Je n'arrivais même plus à réfléchir. Dites-lui juste ça, que je suis désolé. »
Elle rata quelques séances d'entraînement et ne se montra plus aussi rapide qu'avant à son retour, plus aussi audacieuse. L'essentiel de ce qui faisait d'elle un bon commandant l'avait quittée. Petra ne lui était plus d'aucune utilité, sauf dans le cadre de missions de routine étroitement supervisées. Elle savait ce qui était arrivé. Mais également qu'Ender n'avait pas d'autre choix, ce qu'elle ne manqua pas de lui dire. Il n'en restait pas moins qu'elle avait craqué, alors qu'elle était loin d'être la plus médiocre de ses chefs d'escadrille. Ender devait prendre cela comme un avertissement. Il ne pouvait pousser ses commandants au-delà de leurs limites. Désormais, chaque fois qu'il lui fallait faire appel aux compétences de ses leaders, il se forçait à se remémorer le nombre de batailles qu'ils avaient livrées. Il devait les économiser, ce qui impliquait parfois d'aller au combat avec des commandants à qui il faisait un peu moins confiance. En réduisant la pression qu'il exerçait sur eux, il augmentait d'autant celle qu'il subissait lui-même. Une douleur le réveilla une fois, tard dans la nuit. Il y avait du sang sur son oreiller. Son goût emplissait sa bouche. Ses doigts s'élançaient. Il avait rongé son propre poing dans son sommeil. Le liquide vermeil s'en écoulait encore avec lenteur.
« Mother ! » s'écria-t-il.
Rackham appela immédiatement un médecin.
« Je me fiche de ce que tu manges, Ender, » lui dit Mother pendant que le praticien soignait sa blessure. « L'auto-cannibalisme ne te fera pas quitter cette école. »«
Je dormais, » dit Ender. « Je ne veux pas quitter l'école de commandement. »«
Bien. » »«
Les autres ? » ?»« Ceux qui n'ont pas réussi. » »«
Je ne comprends pas. » »«
Avant moi, vos élèves précédents, ceux qui n'ont pas réussi à aller au bout de l'entraînement, que leur est-il arrivé ?»«
Ils n'ont pas réussi, c'est tout. » « Nous ne punissons pas ceux qui échouent. Ils ne continuent pas, ni plus ni moins. »«
Comme Bonzo ?»«
Bonzo ?»«
Il est rentré chez lui ?»«
Pas comme Bonzo. » »«
Alors quoi ? Qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils ont échoué ?»«
Ça n'a pas d'importance, Ender. »
Celui-ci ne fit aucun commentaire.
« Aucun d'entre eux n'a échoué à ce stade, Ender. »
Tu as commis une erreur avec Petra, elle va se rétablir, mais... Tu n'es pas Petra.
C'est à elle que je dois une partie de moi, tout ce qu'elle m'a appris.
Tu ne vas pas échouer, Ender, pas si tôt. Tu en as vu de dur, mais tu as toujours fini par l'emporter. Tu ne connais pas encore tes limites, et ça me décevrait fort que tu les aies déjà atteintes.
Est-ce qu'il meurt?
Qui?
Ceux qui échouent.
Non, il ne meurt pas, Seigneur, mon garçon. Ce n'est qu'un jeu.
Je crois que Bonzo est mort. J'en ai rêvé la nuit dernière. Je me suis rappelé l'air qu'il avait quand je lui ai donné un coup de tête. J'ai dû lui enfoncer le nez dans le cerveau. Il avait du sang qui lui sortait des yeux. Je crois qu'il est mort sur le coup.
Ce n'était qu'un rêve.
Mother, je n'en peux plus de rêver de tout ça. J'ai peur d'aller dormir. Je n'arrête pas de penser à des choses dont je ne veux pas me souvenir. Ma vie se déroule comme si j'étais un magnétoscope et que quelqu'un d'autre persistait à vouloir en regarder sans cesse les moments les plus horribles.
Nous ne pouvons pas te donner de somnifères, si c'est ce que tu espères. Je suis désolé pour tes cauchemars. Veux-tu que nous laissions la lumière allumée pendant la nuit?
Ne vous moquez pas de moi! S'exclama Ender. J'ai l'impression de devenir fou!
Le médecin en avait terminé avec le pansement. Mother lui dit qu'il pouvait partir.
Et ça te fait peur?
S'enquit le vieillard.
Ender hésita. Dans mes rêves, je ne suis jamais sûr d'être vraiment moi-même.
Les rêves bizarres servent de soupape de sûreté, Ender. Je te mets vraiment sous pression pour la première fois de ton existence. Ton corps trouve des moyens de compenser, voilà tout. Tu es un grand garçon à présent. Il est temps d'arrêter d'avoir peur du noir.
D'accord, fit le jeune Wiggin, qui décida de ne plus jamais lui parler de ses cauchemars à l'avenir. Les jours s'écoulèrent, avec leur lot de batailles, jusqu'à ce qu'Ender finisse par s'installer dans une routine d'autodestruction. Il commença à avoir des maux d'estomac. On le mit à la diète. Il perdit de toute façon bientôt tout appétit.
« Mange !» lui disait Mother.
Et Ender enfournait mécaniquement la nourriture dans sa bouche. Mais si personne ne le lui avait ordonné, il ne l'aurait pas fait. Deux chefs d'escadrille supplémentaires s'écroulèrent de la même manière que Petra, ce qui ne fit qu'accroître d'autant la pression qui pesait sur les autres. L'ennemi les surpassait chaque fois en nombre désormais, dans une proportion de 3, voire 4 pour 1. En outre, ils battaient en retraite plus promptement quand les choses tournaient mal, se regroupant pour faire durer encore et encore les batailles. Celles-ci se prolongeaient parfois pendant des heures, avant qu'ils ne parviennent, en fin de compte, à détruire le dernier vaisseau ennemi. Ender commença à intervertir ses chefs d'escadrille au sein d'une même bataille, remplaçant ceux qui devenaient trop lents par des troupes fraîches. « Tu sais, » lui dit une fois Bin, alors qu'il prenait le contrôle des 4 chasseurs restants de Hot Soup, « ce jeu devient vraiment de moins en moins drôle. » Puis un jour, pendant l'entraînement, alors qu'Ender faisait faire des manœuvres à ses chefs d'escadrille, la pièce s'assombrit autour de lui, et il reprit connaissance sur le sol, le visage ensanglanté là où il avait heurté les commandes. On le mit alors au lit, qu'il ne quitta pas pendant 3 jours. Il se rappela par la suite avoir vu des visages dans ses rêves, mais pas de vrais visages. Il le savait alors même qu'il lui apparaissait. Il crut voir Valentine et aussi Peter, parfois ses amis de l'école de guerre, et parfois des Doriforts, occupés à le disséquer. À une occasion, il eut même l'impression de voir le colonel Graff penché sur lui, en train de lui parler doucement, comme une sorte de père. Mais il n'ouvrit les yeux que pour trouver en face de lui son ennemi, Mazer Rakam.
« Je suis réveillé, » dit Ender.
« C'est ce que je vois, » répondit Mazer. « Tu as mis le temps. Tu as une bataille aujourd'hui. »
Ender se leva, livra bataille et l'emporta. Mais il n'y en eut pas de deuxième ce jour-là, et on le laissa même aller au lit plus tôt. Ses doigts tremblaient pendant qu'il se déshabillait. Pendant la nuit, il eut l'impression de sentir des mains le toucher doucement,
des mains pleines d'affection, de tendresse. Il rêva qu'il entendait des voix. « Vous ne l'avez pas ménagé. Ça ne faisait pas partie de ma mission. » Encore combien de temps peut-il continuer comme ça? Il est en train de craquer. Le temps qu'il faudra, c'est presque fini. Déjà? Plus que quelques jours et ce sera fini. Comment va-t-il faire alors qu'il est déjà dans cet état? Je lui fais entière confiance. Il n'a jamais mieux combattu qu'aujourd'hui. Dans son rêve, les voix ressemblaient à celles du colonel Graff et de Mazer Hakam. Mais c'était ainsi que fonctionnaient les songes. Les choses les plus folles pouvaient arriver. Il crut d'ailleurs entendre une voix dire « Je ne supporte plus de voir ce que ça lui fait. » Et l'autre voix de répondre « Je sais, je l'aime moi aussi. » Pour ensuite se transformer en celle de Valentine et d'Allée, qui, dans son rêve, était en train de l'enterrer. Sauf qu'une colline se mit à grandir là où ils avaient déposé son corps, et qu'en se desséchant, il devint un foyer pour les Doryphores, tout comme le géant. Rien que des rêves. Si quelqu'un avait de l'amour ou de la pitié pour lui, c'était juste dans ses rêves. Il se réveilla, livra une nouvelle bataille et gagna une fois encore. Puis il se coucha, dormit et rêva. Puis se réveilla et gagna à nouveau, dormit encore. Il finissait par ne plus faire la différence entre le sommeil et l'éveil. Non pas que ça lui importât. Bien qu'il l'ignorât, le lendemain allait être sa dernière journée à l'école de commandement. Mazer Hakam ne se trouvait pas dans sa chambre à son réveil. Il prit sa douche, s'habilla, puis attendit que Hakam vienne déverrouiller sa porte. En vain. Ender essaya de l'ouvrir. Elle n'était pas fermée. Était-ce par accident que Mazer l'avait laissée libre ce matin? Personne pour lui dire qu'il devait manger, aller s'entraîner, dormir. La liberté. Le problème, c'était qu'il ne savait pas quoi en faire. Il envisagea un instant de partir en quête de ses chefs d'escadrille, de leur parler face à face, mais il ignorait où ils se trouvaient. Pour ce qu'il en savait, ils auraient pu être à 20 kilomètres de là. Aussi, après avoir erré un certain temps dans les couloirs, se rendit-il au mess prendre son petit déjeuner à proximité de quelques marines qui racontaient des cochoncetés auxquelles il ne comprit absolument rien. Puis il gagna la salle du simulateur pour s'entraîner. Quand bien même il était libre, il ne trouvait rien à faire d'autre. Mazer était en train de l'attendre. Ender pénétra lentement dans la pièce, traînant légèrement les pieds de fatigue. Mazer fronça les sourcils.
« Tu es réveillé, Ender ?»
Il y avait d'autres personnes dans la salle du simulateur. Le cadet des Wiggins s'interrogea sur la raison de leur présence, mais il ne prit pas la peine de poser la question. Ça n'aurait servi à rien, personne ne lui aurait répondu de toute façon. Il alla s'installer aux commandes du simulateur, prêt à débuter.
« Ender Wiggin, » dit Mazer, « retourne-toi, s'il te plaît. La partie d'aujourd'hui nécessite une petite explication. »
Ender s'exécuta. Il jeta un coup d'œil sur les hommes rassemblés au fond de la pièce. La plupart lui étaient inconnus. Certains d'entre eux avaient même des vêtements civils. Tombant sur Anderson, il se demanda ce qu'il faisait ici et qui s'occupait de l'école de guerre en son absence. Il vit Graff et se souvint du lac dans la forêt à la sortie de Greensboro.
« Ramenez-moi, » lui lança-t-il silencieusement. « Dans mon rêve, vous disiez que vous m'aimiez. Ramenez-moi chez moi. »
Mais Graff se contenta de lui adresser un signe de tête, un salut, pas une promesse. Quant à Anderson, il fit comme s'il ne le connaissait même pas.
« Concentre-toi, Ender, s'il te plaît. Aujourd'hui va avoir lieu ton examen de sortie de l'école de commandement. Ces observateurs sont venus évaluer ce que tu as appris. Si tu préfères ne pas les avoir dans la pièce, on peut les installer sur un autre simulateur.
Ils peuvent rester. »
L'examen final. Après ça, peut-être allait-il enfin pouvoir se reposer.
Pour que ce test nous donne une idée précise de tes aptitudes, la bataille d'aujourd'hui introduit un nouvel élément, histoire de ne pas répéter ce que tu as déjà pratiqué à de nombreuses reprises. Tu vas être confronté à des situations que tu n'as jamais rencontrées. Cette partie va se dérouler autour d'une planète, ce qui aura une influence sur la stratégie de l'ennemi et va te forcer à improviser. Reste bien concentré aujourd'hui, s'il te plaît.
Ender fit signe à Mazer de s'approcher. « Suis-je le premier élève à aller aussi loin ?» lui demanda-t-il d'une voix égale.
« Si tu gagnes aujourd'hui, Ender, tu seras le premier élève à y parvenir. C'est plus que je n'ai la liberté de t'en dire. »«
Eh bien moi, j'ai celle de l'entendre.
Tu pourras faire preuve d'autant de mauvaise humeur que tu le voudras demain. Aujourd'hui, par contre, j'apprécierai que tu restes concentré sur l'examen. Ne gâchons pas tout ce que tu as déjà accompli.
Bon.
Comment vas-tu t'y prendre avec la planète?
Il me faut quelqu'un derrière, sans quoi j'aurai un angle mort?
Exact.
Et la pesanteur va affecter les niveaux de carburant? Ça revient moins cher de descendre que de monter.
Oui.
Est-ce que le petit docteur fonctionne contre une planète? Le visage de Mazer se figea.
Ender, les Doriforts n'ont jamais délibérément attaqué de populations civiles, dans aucune de leurs tentatives d'invasion. C'est à toi de décider s'il est judicieux d'adopter une stratégie susceptible d'appeler des représailles.
La planète est-elle le seul élément nouveau?
Tu te souviens d'une seule bataille que je t'aurais soumise avec un seul élément nouveau? Je peux t'assurer, Ender, que je ne serai pas gentil avec toi aujourd'hui. J'ai envers la flotte la responsabilité de ne pas laisser un élève de seconde zone obtenir son diplôme. Je vais faire de mon mieux contre toi, Ender. Je n'ai aucune envie de te choyer. Contente-toi de garder en tête tout ce que tu sais à propos de toi-même et des Doriforts, et tu auras des chances d'aboutir à quelque chose.
Et Mazer quitta la pièce. « Vous êtes là ?» s'enquit Ender dans le micro.
« Tous sans exception !» répondit Bean.
« Toi, par contre, tu es à la bourre à l'entraînement ce matin. »
Ainsi donc, les chefs d'escadrille n'avaient pas été prévenus. Ender caressa l'idée de leur dire à quel point cette bataille était importante pour lui, pour finalement estimer qu'avoir cette question en tête ne ferait rien pour les aider.
« Désolé, » fit-il. « Je me suis pas réveillé. »
Ils éclatèrent de rire. Ils ne le croyaient pas.
Ender leur fit exécuter des manœuvres pour les préparer à la bataille à venir. S'il mit plus longtemps que d'habitude à se désembrumer l'esprit, à se concentrer sur son commandement, il se retrouva bientôt pleinement opérationnel, prompt à réagir, les idées claires.
Du moins en ai-je l'impression.
Le champ du simulateur s'éclaira. Ender attendit que la partie commence.
Qu'est-ce qui va se passer si je réussis l'épreuve aujourd'hui?
Y aura-t-il une autre école?
Une nouvelle année d'entraînement éreintant?
Une nouvelle année d'isolement? De gens qui me poussent ici ou là?
Une nouvelle année sans le moindre contrôle sur ma propre existence?
Et il s'efforça de rappeler son âge. 11 ans.
Depuis combien d'années avait-il 11 ans?
Combien de jours? Son anniversaire avait dû avoir lieu ici, à l'école de commandement, mais il ne parvenait pas à s'en souvenir. Peut-être ne l'avait-il même pas remarqué. Personne n'y prenait garde, sauf éventuellement Valentine. Alors même qu'il voyait les données de la partie apparaître, il se surprit à souhaiter la perdre, à vouloir subir une défaite sévère, totale, pour qu'on mette fin à son entraînement, comme Banzo, et qu'on le laisse repartir chez lui. Banzo avait été affecté à Carthagène. Lui voulait recevoir des ordres de route sur lesquels Greensboro aurait été inscrit. L'emporter signifiait la continuation de tout ceci. L'échec, un retour parmi les siens.
« Non, ce n'est pas vrai, » se dit-il. « Ils ont besoin de moi, et si j'échoue, je n'aurai peut-être plus de foyer où rentrer. » Mais il en doutait fortement. Sa conscience lui disait que c'était la vérité,
mais en d'autres lieux, en des lieux bien plus profonds. Il ne croyait pas qu'on ait besoin de lui. L'impatience de Mazur n'était qu'un piège de plus. Juste un nouveau moyen de me forcer à accomplir leur volonté, de me priver de repos, de m'empêcher de ne rien faire pendant très, très longtemps. Puis la formation adverse fit son apparition, et la lassitude d'Ender se mua en désespoir. L'ennemi le surpassait en nombre dans une proportion de 1000 pour 1. Le simulateur resplendissait littéralement de vert. Ils étaient regroupés en une douzaine de formations différentes qui ne cessaient de changer de forme et de position, se déplaçant selon des schémas à première vue aléatoires dans le champ du simulateur. Ender n'arrivait pas à trouver un chemin pour les traverser. Un espace qui paraissait un instant dégagé se refermait soudain, un nouveau se manifestait ailleurs. Les formations qui semblaient pénétrables se rassemblaient, sans crier gare. La planète était située à l'autre bout du champ, et pour ce qu'Ender en savait, il devait y avoir autant de vaisseaux ennemis au-delà. Sa propre flotte, quant à elle, se composait de 20 vaisseaux, chacun avec 4 chasseurs seulement. Il connaissait bien ce modèle, démodé, lymphatique, équipé de petits docteurs dont la portée était inférieure de moitié à celle des appareils plus récents. 80 chasseurs contre au moins 5 000, peut-être 10 000 bâtiments ennemis. Il entendit ses chefs d'escadrille respirer bruyamment, puis un juron étouffé s'élevait des observateurs derrière lui. Ça lui faisait plaisir de savoir qu'au moins un des adultes avait remarqué le caractère inéquitable de ce test. Non pas que ça fasse la moindre différence, l'équité n'avait à l'évidence pas sa place dans cette partie. Il ne faisait même pas semblant de lui laisser une quelconque chance de l'emporter.
« Quand je pense à tout ce par quoi je suis passé, ils n'ont jamais eu l'intention de me donner mon examen. »
Il s'imaginait Bonzo et sa petite bande de brutes en train de l'affronter, de le menacer. Il avait réussi à piquer l'amour-propre de Bonzo pour le forcer à le combattre seul. Ça ne risquait pas de fonctionner ici. Pas plus qu'il ne pouvait compter sur son talent pour surprendre l'ennemi, comme il avait pu le faire en salle de combat avec les garçons plus âgés. Mazur le connaissait trop bien pour ça. Derrière lui, les observateurs se mirent à tousser, à s'agiter nerveusement. Il commençait à comprendre qu'Ender ne savait pas quoi faire.
« Je n'en ai plus rien à faire, de toute façon. Vous pouvez garder votre jeu. Pourquoi devrais-je jouer si on ne me laisse même pas la moindre chance ?»
Comme sa dernière partie à l'école de guerre, quand on lui avait fait affronter 2 armées simultanément. Et alors même qu'il se rappelait cet épisode, Bean s'en souvint lui aussi apparemment, car sa voix s'éleva dans le casque pour dire « N'oublie pas, l'entrée de l'ennemi est en bas !» Molo, Soup, Vlad, Dumper et Crazy Tom, tous éclatèrent de rire. Ils se souvenaient, eux aussi. Et Ender fit de même. C'était drôle. Les adultes prenant tout ça tellement au sérieux et les enfants jouant le jeu encore et encore, y croyaient également jusqu'à ce que soudain, les adultes aillent trop loin, en fassent trop, et que les enfants finissent par voir clair dans leur jeu. « Laissez tomber, Mazur. Je me fiche de réussir votre examen. Je me fiche de suivre vos règles. Si vous avez le droit de tricher, alors moi aussi. Je ne vous laisserai pas me battre déloyalement. Je vous aurai vaincu avant. » Dans cette ultime bataille à l'école de guerre, il l'avait emporté sans tenir compte de l'ennemi ou de ses propres pertes. Il avait manœuvré directement sur l'entrée adverse. Et l'entrée adverse se trouvait en bas. « Si je brise cette règle, ils ne me permettront jamais de devenir commandant. Ce serait trop dangereux. Je n'aurai plus jamais à jouer au moindre jeu. La voilà ma victoire !»
Il murmura quelques ordres rapides dans le micro. Ses commandants s'approprièrent leur part de la flotte et se regroupèrent en un large projectile cylindrique dirigé vers la plus proche des formations ennemies. Loin de tenter de l'arrêter, celle-ci le laissa passer afin de le prendre complètement au piège.
Au moins, Mazur tient-il compte du fait qu'ils sont censés avoir appris à me respecter, songea Ender. Ça me permet de gagner du temps.
Ender feinta vers le bas, au nord, à l'est, puis à nouveau vers le bas, sans avoir l'air de suivre le moindre plan, mais se retrouvant toujours plus proche de la planète ennemie. Au bout du compte, ses adversaires commençaient à le serrer d'un peu trop près. Alors, sans crier gare, la formation d'Ender éclata.
Sa flotte parut se fondre dans le chaos. Les 80 chasseurs semblaient désormais tirer au hasard sur les vaisseaux ennemis, se frayant individuellement un chemin impossible parmi les appareils des Doryfors. Au bout de quelques minutes, cependant, Ender murmura un nouvel ordre à ses chefs d'escadrille. Une douzaine de chasseurs se remit aussitôt en formation. Mais ils se trouvaient à présent de l'autre côté d'un des groupes les plus imposants de la force adverse. Ils n'avaient réussi à passer qu'au prix de pertes terribles, couvrant dans la manœuvre plus de la moitié de la distance qui les séparait de la planète hostile. « L'ennemi nous voit maintenant, » se dit Ender. « Mazer a certainement compris mes intentions. Mais peut-être m'en croit-il incapable. Eh bien, tant mieux pour moi. » La minuscule flotte d'Ender filait dans tous les sens, lâchant soudain deux ou trois chasseurs dans un simulacre d'attaque pour aussitôt les récupérer. L'ennemi approchait, rappelant vaisseaux et formations jusque-là largement éparpillés, les rassemblant pour la mise à mort. L'essentiel de leurs troupes était concentré au-delà d'Ender, de manière à le priver de tout échappatoire. « Excellent !» se dit-il. « Plus près ! Venez plus près !» Dans un murmure, il ordonna à ses bâtiments de mettre le cap sur la surface. Chasseurs et vaisseaux spatiaux se mirent à tomber comme des pierres, malgré leur totale inaptitude à supporter la chaleur d'un passage à travers l'atmosphère d'une planète. Mais ce n'était nullement dans les intentions d'Ender. Presque aussitôt après qu'ils eurent commencé à chuter, ils braquaient leur docteur Mecha sur un seul et unique objectif. La planète elle-même. 1, 2, 4, 7 chasseurs volèrent en éclats. Que le moindre de ces vaisseaux puisse survivre assez longtemps pour arriver à portée de tir n'était plus qu'une affaire de chance à présent. Ça ne prendrait qu'un instant une fois qu'ils seraient parvenus à cibler la surface. Juste une seconde avec le docteur Mecha. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ender se demanda alors si l'ordinateur était équipé pour représenter le sort d'un monde attaqué par le petit docteur. Qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas ? Hurler « Pan, t'es mort ?» Ender lâcha les commandes et se pencha pour regarder ce qui était en train de se passer. La perspective s'était rapprochée de la planète, dont le puits gravitationnel attirait irrésistiblement le vaisseau. Il est certainement à portée de tir désormais. Et l'ordinateur n'arrive plus à gérer. Puis la surface de la planète, qui emplissait à présent la moitié du champ du simulateur, commença à se boursoufler. La déflagration qui s'ensuivit projeta des milliers de débris en direction des chasseurs d'Ender. Celui-ci essayait d'imaginer ce qui était en train de se passer à l'intérieur de ce monde. Le champ ne cessant de grossir, l'explosion de molécules dont les atomes désormais indépendants n'avaient nulle part où aller. La planète tout entière mit moins de 3 secondes à sauter, à se transformer en une boule de poussière étincelante en expansion rapide. Les chasseurs d'Ender furent parmi les premiers à disparaître. Leur perspective s'évanouit sans crier gare, ne laissant au simulateur que la possibilité d'afficher celle des vaisseaux spatiaux stationnés en attente à la lisière de la bataille. Ender n'aurait de toute façon pas voulu s'approcher davantage. La sphère de l'explosion se dilatait plus vite que les capacités d'accélération des bâtiments ennemis, et elle charriait dans son sillage le petit docteur, plus si petit à présent, qui mettait en pièces tous les vaisseaux sur son passage, les réduisant chacun à un point de lumière avant de poursuivre sa course. Le champ du docteur ne faiblissait qu'à la périphérie du simulateur. Quelques chasseurs ennemis étaient en train de s'éloigner. Les propres bâtiments d'Ender n'explosaient pas. Mais là où s'était trouvée l'immense flotte adverse, de même que la planète qu'elle protégeait, il n'y avait plus rien de significatif. Juste un agglomérat de poussière en cours de densification à mesure que la gravité rassemblait l'essentiel des débris. Elle rayonnait de chaleur et tournait visiblement sur elle-même. Elle était aussi beaucoup plus petite que ne l'avait été la planète. La majeure partie de sa masse se résumait à présent à un nuage de cendres qui continuait à s'éloigner. Ender ôta alors son casque, saturé des acclamations de ses chefs d'escadrille, pour se rendre aussitôt compte qu'il y avait pratiquement autant de bruit dans la pièce où il se trouvait. Des hommes en uniforme se serraient dans leurs bras, riaient, hurlaient. D'autres étaient en train de pleurer. Quelques-uns étaient à genoux ou à plat ventre par terre, manifestement occupés à prier. Ender ne comprenait pas.
Tout sonnait tellement faux. Ils étaient censés être en colère.
Le colonel Graff se détacha du groupe pour s'approcher d'Ender. Des larmes coulaient le long de son visage, mais il souriait. Il se pencha, tendit les bras, et à la grande surprise du cadet des Wiggin, le serra contre lui en murmurant « Merci. Merci, Ender. Que Dieu soit loué pour ton existence. » Les autres vinrent bientôt lui serrer la main à leur tour, le féliciter. Lui essayait de trouver un sens à tout ça. Avait-il réussi le test malgré tout? C'était sa victoire, pas la leur, et fausse avec ça, une tricherie. Pourquoi se comportait-il comme s'il l'avait emporté avec honneur? La foule s'ouvrit pour laisser passer Mazer Rakam. Il se dirigea droit sur Ender et lui tendit la main.
« Tu as choisi la voie la plus difficile, mon garçon. Tout ou rien, eux ou nous. Mais Dieu sait que tu n'avais pas d'autre moyen d'y parvenir. Félicitations. Tu les as battus. Tout est fini. »
Fini. Battu. Ender ne comprenait pas. « Je vous ai battu. » Mazer éclata de rire, un rire sonore qui emplit la salle.
« Ender, tu n'as jamais joué contre moi. Tu n'as jamais joué depuis que je suis devenu ton ennemi. »
Le jeune Wiggin ne saisissait pas sa plaisanterie. Il avait joué à de nombreuses reprises, au prix le plus fort pour lui-même. Il sentit la colère enfler en lui. Mazer tendit la main pour lui toucher le bras. Ender se déroba d'un haussement d'épaule.
« Ender, lui dit-il alors avec gravité, ça fait déjà quelques mois que tu es devenu le commandant en chef de nos flottes. C'était la troisième invasion. Il ne s'agissait pas de jeu. Les batailles étaient réelles, et les Doriforts le seul ennemi que tu aies affronté. Tu as remporté chaque combat. Et aujourd'hui, tu as fini par les combattre sur leur planète d'origine. » Là où se trouvait la reine, toutes les reines de toutes les colonies. Elles y étaient toutes, et tu les as anéanties jusqu'à la dernière. Ils ne nous attaqueront plus jamais. Tu as réussi. Toi.
La réalité. Pas un jeu. L'esprit d'Ender était trop confus pour tout intégrer. Ce n'était pas de simples points de lumière dans les airs. Il avait combattu avec de vrais vaisseaux et détruit des vaisseaux tout aussi réels. Et c'était un monde bien concret qu'il avait définitivement anéanti. Il traversa la foule de gens, évitant leurs félicitations, ignorant leurs mains, leurs paroles, leurs jubilations. Une fois dans sa chambre, il ôta ses vêtements, grimpa dans son lit et s'endormit. Quelqu'un le secoua pour le réveiller. Il mit un moment à reconnaître de qui il s'agissait. Graff et Rakam. Il leur tourna le dos.
« Laissez-moi tranquille. »«
Ender, il faut que nous te parlions, » fit Graff. Le garçon se retourna pour leur faire face. « Les vidéos sont diffusées sur Terre sans interruption depuis la bataille d'hier. »«
Hier ?»
Il avait dormi une journée entière.
« Tu es un héros, Ender. » Ils ont vu ce que vous avez fait, toi et les autres. Je doute qu'un seul gouvernement de la Terre te refuse sa plus haute médaille.
Je les ai tous tués, n'est-ce pas?
Demanda Ender. Qui ça, tous? S'enquit Graff. Les Doriforts? C'était l'idée. Mazer se pencha plus près.
C'était l'enjeu de cette guerre.
Toutes leurs reines? Donc j'ai tué tous leurs enfants? « Jusqu'au dernier.
Ce sont eux qui nous ont attaqués en premier. Ce n'était pas ta faute. C'était ce qui devait arriver. »
Ender saisit l'uniforme de Mazer et s'y accrocha pour le forcer à baisser la tête au niveau de la sienne.
« Je ne voulais pas tous les tuer. Je ne voulais tuer personne. Je ne suis pas un tueur. Ce n'était pas moi que vous vouliez, espèce de salaud, c'était Peter. » Mais vous m'avez forcé à le faire, vous m'avez trompé. »
Il pleurait. Il était déchaîné.
« Bien sûr que nous t'avons trompé, » fit Graff. « C'était la seule solution sans quoi tu n'aurais pas pu le faire. C'était le dilemme auquel nous étions confrontés.
Il nous fallait un commandant suffisamment empathique pour réfléchir comme les Doryphores, les comprendre et anticiper leurs actes. Avec assez de compassion pour pouvoir gagner l'amour de ses subordonnés et travailler avec eux comme une mécanique parfaite, aussi parfaite que les Doryphores. Mais un tel individu n'aurait jamais pu être le tueur dont nous avions besoin. Il n'aurait jamais pu livrer bataille avec la volonté de vaincre à tout prix. Si tu avais su, tu n'aurais pas pu le faire. Si tu avais été le genre de personne capable de le faire tout en le sachant, tu n'aurais jamais pu comprendre assez bien les Doryphores. « Et ça devait être un enfant, Ender, » ajouta Mazer. « Tu étais plus rapide que moi, meilleur que moi. J'étais trop vieux, trop prudent. Toute personne de bonne volonté consciente des réalités de la guerre ne peut jamais passer à l'action de tout son cœur. Mais toi, tu ignorais tout cela. Nous y avons veillé. Tu étais insouciant, brillant, jeune. C'était la raison même de ta venue au monde.
Il y avait des pilotes dans nos vaisseaux, n'est-ce pas ?
Oui.
J'ordonnais à des pilotes d'aller à la mort sans même le savoir.
Eux le savaient, Ender. Et ça ne les a pas empêchés d'y aller. Ils connaissaient l'enjeu.
Vous ne m'avez jamais demandé mon avis. Vous ne m'avez jamais dit la vérité sur quoi que ce soit.
Il fallait que tu deviennes une arme, Ender. Comme un pistolet, comme le petit docteur. Un mécanisme parfaitement inconscient de ce sur quoi il était braqué. Nous t'avons pointé, Ender. Nous sommes responsables. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, c'est nous.
Ça peut certainement attendre.
Ses yeux se fermèrent.
Mazer Hakam le secoua. « Ne te rendors pas, Ender. C'est très important. »«
Vous en avez fini avec moi. Laissez-moi tranquille. »«
C'est la raison de notre présence ici, Ender. »« C'est ce que nous essayons de t'expliquer. »« Ils n'en ont pas fini avec toi, loin de là. »« C'est la folie en bas. »« Ils vont déclarer la guerre. »« Les Américains prétendent que le pacte de Varsovie est sur le point d'attaquer. »« Et les Russes disent la même chose à propos de l'hégémonie. » Ça ne fait même pas 24 heures que la guerre contre les Doryphores est terminée et le monde entier recommence déjà à se battre comme avant. Et tout le monde s'inquiète à ton propos. Ils te veulent tous. Ils veulent tous que le plus grand chef militaire de l'histoire mène leurs armées. Les Américains, les Gémons, tout le monde, à part le pacte de Varsovie, eux, ils veulent ta mort.
Je ne demande pas mieux.
Nous devons t'évacuer d'ici. Eros grouille de Marines, des Russes, tout comme le Polémarque. La situation peut tourner à l'effusion de sang à tout moment.
Ender leur tourna à nouveau le dos. Ils ne l'en empêchèrent pas cette fois. Mais ils ne comptaient pas dormir. Ils voulaient les écouter.
C'est ce que je craignais, Rakam. Vous l'avez poussé à bout. Certains de leurs avant-postes secondaires auraient pu attendre. Vous auriez pu lui laisser quelques jours de repos. Vous comptez vous y mettre aussi, Graf. Essayez de déterminer comment j'aurais pu mieux faire. Vous ignorez ce qui serait arrivé si je n'avais pas insisté. Personne ne le sait. Je l'ai fait à ma manière et ça a marché. Peu importe le reste, ça a marché. Mémorisez bien cette défense, Graf. Vous allez peut-être devoir l'utiliser, vous aussi.
Désolé.
Je ne suis pas aveugle. Le colonel Leakey estime que les dégâts risquent fort d'être irréversibles, mais je n'y crois pas. Il est trop fort pour ça. Gagner signifiait beaucoup pour lui. Et il a gagné.
Ne me parlez pas de force.
Ce gosse a 11 ans. Accordez-lui un peu de repos, Rakam. La situation est encore sous contrôle. Nous pouvons poster un garde devant sa porte. Ou bien devant une autre porte, en faisant croire que c'est la sienne.
Qu'importe. Ils s'enfurent. Ender se rendormit. Le temps passa sans le toucher, sinon par des coups de biais. À une occasion, une pression sur sa main le réveilla pendant quelques minutes. Une pression sourde, insistante, douloureuse. Une aiguille enfoncée dans une veine. Il tenta de l'arracher,
mais on avait mis un sparadrap dessus, et il était de toute façon trop faible pour ça. Une autre fois, il entendit dans l'obscurité des gens qui murmuraient et juraient à proximité. Ses oreilles bourdonnaient du bruit puissant qui l'avait réveillé. Il ne se souvenait pas de quoi il avait bien pu s'agir. « Allumez les lumières !» dit quelqu'un. Une autre fois encore, il s'imagina sentir quelqu'un pleurer doucement près de lui. Ça pouvait avoir duré un jour, ou alors une semaine. S'il devait en croire ses rêves, ça aurait tout aussi bien pu être des mois. Il avait l'impression d'y traverser des existences successives. Le ver du géant, les enfants loups, les morts horribles, les meurtres incessants. Il entendait une voix murmurer dans la forêt. « Il fallait que tu tues les enfants pour atteindre le bout du monde. » Et quand il essayait de répondre qu'il n'avait jamais voulu tuer qui que ce soit, que personne, jamais, ne lui avait demandé s'il voulait tuer, la forêt se moquait de lui. Et lorsqu'il sautait de la falaise au bout du monde, ce n'était pas toujours des nuages qui le rattrapaient, mais parfois un chasseur qui le menait jusqu'à un poste d'observation situé à proximité de la planète des Doryphores, d'où il pouvait assister, encore et encore, à l'éruption de mort provoquée par le docteur Mecha. Puis, de plus en plus près, au point qu'il voyait chaque Doryphore exploser, se transformer en lumière, puis s'effondrer devant ses yeux en un tas de poussière. Et la reine, entourée de sa progéniture. Sauf que la reine était mère. Les nouveau-nés, Valentine, et tous les enfants qu'il avait connus à l'école de guerre. L'un d'eux avait le visage de Banzo, qui gisait là, à saigner des yeux et du nez, et lui disait « Tu n'as aucun honneur !» Et toujours le rêve prenait fin avec un miroir, ou une flaque d'eau, ou la surface métallique d'un vaisseau, quelque chose qui lui renvoyait l'image de son visage. C'était celui de Peter, dans un premier temps, qui apparaissait alors avec du sang et une queue de serpent qui lui sortait de la bouche. Au bout d'un moment, cependant, il commença à voir le sien, vieux et triste, avec des yeux qui pleuraient un milliard, des milliards de meurtres. Mais c'était ses yeux, et il se réjouissait que ce soit le cas. Ce fut le monde dans lequel Ender vécut maintes existences pendant les 5 jours que dura la guerre de la Ligue. Il était étendu dans le noir à son réveil. Au loin, il pouvait entendre le bruit assourdi d'explosions. Il écouta quelque temps, puis perçut des pas légers. Il se retourna et brandit une main pour saisir l'inconnu qui s'approchait de lui en silence. Ses doigts se refermèrent sur des vêtements qu'il tira en direction de ses genoux, prêt à tuer, si nécessaire. « Ender, c'est moi! C'est moi !» Il connaissait cette voix. Elle s'extirpa de sa mémoire comme si 1 million d'années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il l'avait entendue. « Allez !»«
Salam, moustique. »«
Qu'est-ce que tu cherchais à faire ? Me tuer ?»«
Oui. Je pensais que tu essayais de me supprimer. Je ne voulais pas te réveiller.
Eh bien, à l'évidence, il te reste encore un minimum d'instinct de survie.
Vu la manière dont Mazur parlait de toi, j'ai cru que tu étais en train de devenir un légume. »
Ender balança ses jambes pour se redresser. Sans succès. Sa tête le faisait trop souffrir. Il grimaça de douleur.
« Ne bouge pas, Ender. Tout va bien. Il semble que nous puissions l'emporter en fin de compte. Le Polémarque n'a pas convaincu tous les membres du pacte de Varsovie de le suivre, et beaucoup ont changé de camp quand le Stratégos leur a dit que tu restais loyal à l'Aéphi. Je dormais.
Donc il a menti. Tu n'étais pas en train de manigancer quelques trahisons dans tes rêves, pas vrai?
Certains des Russes qui sont venus ici nous ont dit que lorsque le Polémarque leur a ordonné de te retrouver pour te tuer, c'est lui qu'ils ont failli supprimer. Quelle que soit leur opinion sur les autres, Ender, ils t'aiment. Le monde entier a regardé nos batailles. Tes vidéos, jour et nuit.
J'en ai vu quelques-unes.
Complètes, avec ta voix, donnant les ordres. Tout y est. Rien n'a été censuré. Bon boulot.
Tu as une carrière toute tracée dans les médias.
J'en doute. Je plaisantais.
Eh, tu ne vas pas y croire.
On a gagné la guerre. Nous avions tellement hâte de grandir pour pouvoir y participer. Et nous n'avons jamais rien fait d'autre.
Sans déconner, Ender. On est des gosses.
Et on a tout fait.
Allez, éclata de rire. Enfin,
Toi, en tout cas. Putain, tu étais bon. Je ne sais pas comment tu as fait pour nous sortir de là cette fois, mais tu l'as fait. Tu étais bon.
Ender remarqua sa façon de parler au passé.
J'étais bon. Et maintenant, allez.
Toujours bon?
À quoi?
À n'importe quoi. Il y a 1 million de soldats prêts à te suivre à l'autre bout de l'univers.
Je ne veux pas aller à l'autre bout de l'univers.
Où veux-tu aller dans ce cas?
Ils te suivront partout.
Je veux rentrer chez moi, se dit Ender.
Mais j'ignore où c'est.
Le vacarme, c'est ça.
Écoutez ça,
fit Allais. La porte s'ouvrit. Quelqu'un se tenait sur le seuil. Quelqu'un de petit.
C'est fini,
murmura-t-il. C'était Bin. Et comme pour confirmer ses dires, les lumières s'allumèrent.
Lui, Bin. Lui, Ender.
Petra le suivit à l'intérieur, la main de Dink dans la sienne. Ils s'approchèrent du lit d'Ender.
« Hey, le héros est réveillé ?»
fit Dink.
« Qui a gagné ?»
demanda Ender.
« Nous, Ender, »
répondit Bin.
« Tu y étais ?»«
Il n'est pas fou à ce point, Bin.
Il parle de ce qui se passe maintenant. »
Petra prit la main d'Ender.
« Une trêve a été conclue sur Terre. Ils ont négocié pendant des jours, pour finalement se mettre d'accord sur la proposition Locke. »«
Il n'est pas au courant pour la proposition Locke. »
C'est très compliqué, mais en gros, elle stipule que l'AFI va continuer d'exister, mais amputée du pacte de Varsovie. Les Marines du pacte vont donc rentrer chez eux. Je crois que les Russes ont accepté à cause de la révolte des États islamiques à laquelle ils ont dû faire face. Tout le monde a eu des problèmes. On a eu pas loin de 500 morts ici, mais c'était pire sur Terre.
Les Gémeaux a démissionné, révéla Dink.
C'est de la folie là-bas. « On s'en tape. »«
Tu vas bien ?» Petra lui caressa la tête.
« Tu nous as fait peur. Ils disaient que tu étais devenu fou. Pour nous, c'était eux les fous. »«
Je suis fou, » dit Ender.
« Mais je crois que je vais bien. »«
Quand as-tu décrété ça ?»«
Sans qui aller ?»«
Quand j'ai cru que tu allais me tuer et que j'ai décidé de te tuer avant. »«
Je dois être un tueur dans l'âme, décidément. »«
Mais... » Je préfère encore être vivant que mort. Dans un éclat de rire, tous convinrent qu'il avait raison. Puis Ender se mit à pleurer. Il étreignit Bin et Petra, les plus près de lui.
« Vous m'avez manqué, » dit-il. « J'avais tellement envie de vous voir. »
« On ne peut pas dire que tu t'en sois privé, » répondit Petra, qui l'embrassa sur la joue.
« J'ai surtout vu votre virtuosité, » dit Ender. J'ai épuisé en premier ceux dont j'avais le plus besoin.
Mauvaise planification de ma part.
Tout le monde va bien maintenant, fit Dink.
Aucun de nous n'avait imaginé pouvoir guérir après avoir passé 5 jours recroquevillés dans des pièces obscures en plein milieu d'une guerre.
Je n'ai plus à être votre commandant, n'est-ce pas?
Je ne veux plus jamais commander qui que ce soit.
Plus rien ne t'y oblige, dit Dink.
Mais tu resteras toujours le nôtre.
Un ange passa.
« Qu'est-ce qu'on va faire à présent ?»
demanda Allais.
« La guerre des Doriforts est terminée, tout comme celle là-bas sur Terre.
Et même celle d'ici.
Qu'allons-nous faire ?»«
Nous sommes des enfants, » dit Petra.
« Ils vont probablement nous forcer à retourner à l'école. C'est la loi. On doit aller à l'école jusqu'à ses 17 ans. »
La remarque les fit tous rire.
Aux larmes.